vois-tu parvenir du fond de l'univers un océan d'amour qui envahit la terre. J'ai interrogé les sages et les poètes du monde. Aucun n'a jamais su me dire où je trouverai la paix. Me vois-tu pas venir du fond de l'univers, un océan d'amour qui envahit la terre. J'ai entrepris des voyages, j'étais sous d'autres cieux, j'ai fini par perdre courage devant tant de malheureux. Me vois-tu pas venir du fond de l'univers, un océan d'amour qui envahit la terre. Une voix s'est faite entendre, c'était la voix de Jésus. Je suis venu non pour les sages, mais pour sauver les perdus. Enfin j'ai vu venir du fond de l'univers cet océan d'amour qui envahit mon âme.
Bonjour à tous. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui en particulier, et en ce moment en particulier. Amen. Il est le Dieu du présent. Notre communauté, pour ceux qui ont écouté la prédication de vendredi soir, nous avons décidé de nous concentrer chaque mois sur une valeur biblique, et de l'étudier d'abord en premier avec une prédication qui la lancera ici dans la chapelle. Ensuite, les enfants ont un privilège, c'est-à-dire celui d'en parler au catéchisme. Et puis ensuite, quatre fois par mois, les parents vont avoir une petite réunion autour de la table avec des gâteaux, des boissons, tout ça. Pas de champagne, hein. Voilà, donc, et la Bible, les dictionnaires, les cahiers de caté, tout ça. Et on va parler pendant un mois d'une... une valeur biblique, et voilà, on va l'intégrer pendant un mois, ensuite on passera à la suivante, etc. C'est une bonne chose, je crois que les frères et sœurs sont venus me trouver beaucoup après, et même des jeunes m'ont dit, c'est bien, ça m'a encouragé que cette idée soit bien reçue. Donc ce matin, eh bien nous avions, l'autre jour, donc vendredi, nous avions décidé que le mois de janvier, eh bien, ça serait un mois dans lequel on va se concentrer sur la loyauté, la fiabilité. Et alors, vous savez, il existe des concordances. Une concordance, c'est un gros livre dans lequel, c'est un peu comme un dictionnaire, dans lequel se trouvent tous les mots de la Bible, et par ordre alphabétique, et on peut retrouver toutes les références qui sont dans les Écritures. Par exemple, vous dites, bon, je voudrais voir tous les versets qui parlent de la loyauté. Alors vous cherchez la lettre L, loyauté, et vous trouvez tous les passages où il est question de loyauté. Et bien, à ma grande surprise, il n'y a qu'un passage où il est question de la loyauté dans toute la Bible. Alors, il y a plein d'histoires de gens qui ont été loyaux, de gens qui ne l'ont pas été, mais... il n'y a qu'une fois le mot loyauté. Il n'y a même pas le mot loyal, il n'y a pas tout ça. Ni clown blanc d'ailleurs. Loyal, pour ceux qui connaissent un petit peu dans notre culture française, hein, le cirque. Voilà, donc c'était bizarre pour moi de constater ça. Et encore, quand on voit ce mot loyal, il est sous la forme négative. Vous vous rappelez, je vous ai dit l'autre jour que on allait parler des valeurs, mais des valeurs, on ne va pas seulement parler du côté positif, mais le côté aussi négatif. Et là, dans Romains chapitre 1, verset 28, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Romains 1, chapitre 28 à 32, il nous est parlé de la loyauté avec une connotation négative. Non pas que la loyauté ne soit pas bonne, mais vous allez voir. Il est question des gens de ce monde qui sont sont éloignés de Dieu, qui ne veulent pas de Dieu. Verset 28. Ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu. Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtre, de dispute, de ruse, de vice, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion. Et bien qu'ils connaissent juste le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Vous pouvez vous asseoir. Triste tableau, hein ? Triste tableau que ce... C'est un constat terrible au sujet de l'humanité. Et ce n'est pas exprès, mais hier, après le repas de midi, on était quelques frères et sœurs au salon, en train de boire du café, parce que nous, on boit du café, on est des grands pêcheurs devant l'Éternel. Et on buvait du café, et on était en train de discuter, et notre frère batteur, Richie, nous parlait, parce qu'il est prof, il nous parlait au sujet de la dégradation du comportement de certains de ses élèves. Et il nous expliquait ça. Et quand je lis ce texte des Saintes Écritures, ben, il me semble que j'entends ce que ce frère nous disait au sujet des jeunes qui ont à peu près 16 ans. Et dans la conversation, on en est venu à parler du manque qu'il y a dans les familles, au sujet de l'éducation. Et nous, dans notre communauté, on insiste sur les liens familiaux, la famille. Dans les sectes, par exemple, on va vous interdire d'aller voir vos familles sous prétexte qu'ils n'ont pas la même foi que vous. Nous, au contraire, on veut absolument que vous gardiez un bon contact avec vos familles. Mais dans la communauté, il y a des familles et on veut que votre famille soit unie et puis que vous parliez, que vous ne soyez pas simplement à parler des devoirs à l'école et de parler de choses profondes. Alors, ce frère nous racontait comment il avait vu, justement, dernièrement, et entendu quelques-uns de ses élèves insulter carrément leurs parents. Lors de réunions avec parents d'élèves, des gamins se sont mis à insulter leurs parents, et les parents ne bronchaient pas, ils disaient rien. Il y a une démission des parents. La Bible parle d'une génération de gens, là, ce qu'on vient de lire, ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux. Elle dit que ces gens-là seront majoritairement fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence. Ça ne signifie pas sans instruction. Vous avez des gens qui sont très instruits, mais ne sont pas intelligents du tout. Et sans loyauté, insensibles et sans compassion. Je vous rappelle, frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas encore étudié toutes les choses qui sont sur Révélation Bible, que nous avons fait des études et nous avons vu, nous avons su, nous avons appris que, à l'heure actuelle, les esprits des morts, du mauvais côté du séjour des morts, l'endroit où ils étaient, ce séjour des morts a été ouvert vers la fin du XXe siècle, selon Apocalypse 6, 7, 8. Et il faut savoir que ce qui est écrit au sujet de notre époque se trouve écrit dans le ciel, dans un livre, c'est un rouleau. À l'époque, les livres n'étaient pas comme nos Bibles, mais c'était des rouleaux comme ça. Et pour les tenir fermés, on mettait des sceaux. Et actuellement, ce livre est dans les mains de Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Et quand le quatrième sceau est brisé, ça ouvre une page. Et sur cette page, il est question de ce qui doit arriver durant notre génération, là, maintenant. La génération qui a vu Israël redevenir une nation. Israël est redevenu une nation en 48. Ça faisait 1500 ans que ce n'était pas arrivé. Et Jésus est très précis. Voilà ce qui va arriver durant notre génération. C'est écrit là, dans Apocalypse 6, 7, 8. Jésus reprend aussi cette prophétie dans l'évangile de Matthieu, on verra ça tout à l'heure. Et ce qui est écrit dans ce rouleau, dans ce livre, sous ce fameux quatrième sceau, ça commence à s'établir sur la terre. La prophétie qui a été écrite, elle a été écrite avant la fondation du monde, en ce qui concerne notre époque, elle a commencé à s'accomplir vers la fin du XXe siècle. Cette prophétie, elle annonce en particulier que la mort et le séjour des morts vont parcourir la terre. La mort parcourt la terre depuis tout le temps. Les gens meurent, plein de gens qui meurent. Mais il y avait une chose qui était impossible, le séjour des morts. Il n'y avait pas de possibilité de contact entre les vivants et les morts. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais là, le séjour des morts a été ouvert et les morts se répandent sur la terre. Et ce n'est pas des bons, hein, ce n'est pas des gentils. Ce n'est pas des gentils morts. Ceux-là, les gentils morts, ils sont partis avec Dieu, ils ne veulent pas revenir. Mais les autres, les malfaisants, tous ces gens qui étaient égoïstes, fanfarons et tout, voilà, des mauvais morts, eh bien, ils sont en train de parcourir la terre. La prophétie dit que la mort et le séjour des morts ont reçu un pouvoir sur le quart de la population mondiale. Quel pouvoir? Le pouvoir de faire périr les gens, le quart de la population mondiale. Alors nous, on est nés, voilà, moi je suis né en 50, vous êtes nés beaucoup plus tard, beaucoup d'entre vous, et vous avez l'impression que voilà, ce que vous entendez aux informations, ben voilà, oui bon, il y a un tel qui a assassiné machin, il y a une révolution là-bas, il y a eu tant de morts, il y a un tremblement de terre, 200 000 morts, il y a machin, ça commence à être banal, on ne fait plus attention. Mais ça, c'est des choses terribles. Ce sont des choses terribles qui arrivent sous nos yeux. Et puis on est là, on regarde ça à la télévision, on dit, tiens, passe-moi le sel. Le pouvoir de faire périr les gens, le quart de la population de notre temps-là, ça va, ils vont y passer. Durant son séjour terrestre, Jésus a annoncé la même prophétie, à peu près, on la trouve dans Matthieu 24, 9, 14, je pense qu'on va la lire. Ce n'est pas tout à fait la même prophétie, mais elle concerne aussi notre époque. Matthieu, ça ne sert à rien que ce soit la même. Il ajoute des précisions. Matthieu 24, 9 à 14. Et voilà ce qu'il dit à notre sujet. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Là, il parle à qui? Il parle à ses disciples. Il dit, vous serez détestés. Vous, qui? Ben, les chrétiens. La semaine passée, avec la Michou, on est allé faire des soldes. Et on était frappé de voir que partout dans Paris, il y a une grande affiche, la chasse aux chrétiens. Bon, il commence à se rendre compte que ça existe. Le monde commence à se rendre compte, les médias commencent à parler du fait que les chrétiens sont persécutés sur la terre. Mais nous, ça fait plus de 40 ans que je lis ça. Il y a des journaux chrétiens spécialisés qui parlent de ça, qui expliquent comment dans beaucoup de pays, les chrétiens sont massacrés, les pasteurs sont assassinés, leurs femmes, leurs enfants. Voilà, mais c'est pas la persécution des chrétiens, c'était pas seulement du temps de Rome. Les chrétiens n'ont jamais été autant persécutés qu'aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas dans quel pays, vous le devinez bien, hein, tous ces pays totalitaires, fous de la calotte et compagnie, mais c'est grave de grave. La Bible dit, voilà, vous serez détestés. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Alors, certains, ceux qui tombent, ils livreront les uns aux autres, ils se détesteront les uns les autres. Il y aura beaucoup de prophètes de mensonges qui se lèveront, qui égareront une multitude de gens. Alors des prophètes qui essaieront de faire contrepoint en disant « Oh, avec Jésus, c'est la paix, la joie, le bonheur, la santé, la prospérité, Dieu va vous donner tout. Donnez à l'Église et vous allez recevoir. » Vous connaissez cette sorte de prophète, hein? Il y en a, mais ça pullule. Hein, ceux qui ne connaissent pas les milieux évangéliques ne savent pas, mais il y en a des milliers. Et ils séduisent. Pourquoi ils séduisent? Parce qu'ils font des belles promesses. Alors ils séduisent. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Maintenant, à notre époque, l'évangile est allé partout. Partout. L'évangile a été prêché partout. C'est la Bible est le livre le plus vendu au monde. La bonne nouvelle est partout dans le monde. On la trouve partout. la prophétie s'accomplit aussi de ce côté-là. Alors, là, Jésus annonce que ses disciples, les chrétiens, seront massacrés, haïs. Jésus annonce que plusieurs chrétiens auront peur. Et alors, ils succomberont, c'est-à-dire ils abandonneront les choses de la foi, ils commenceront à trahir leurs frères. Plus de loyauté. Voilà pourquoi. Là où je veux en venir, au sujet de la loyauté. Ils se mettront à haïr leurs frères. Et puis, Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes, et beaucoup de gens seront séduits. Jésus dit que l'injustice s'accroîtra de jour en jour. À notre époque, écoutez, vous ouvrez la radio, vous écoutez, vous lisez les journaux, vous regardez la télévision, c'est corruption, injustice à tous les niveaux. Et à cause de cela, à cause du fait qu'il y a une injustice qui s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que les gens n'aiment plus. Ils aiment plus, ils sont blasés, ils sont habitués, ils s'en foutent. Ils disent, non, c'est pour moi, je m'occupe de moi, puis les autres, hein, la barbe. On peut faire confiance à personne, il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus de... Alors maintenant, c'est moi d'abord, et puis après, on verra. Oh, ils ont eu de l'amour, mais leur amour s'est refroidi. L'amour s'est refroidi. À cause de quoi? Mes frères et sœurs, ils ont eu leurs raisons. Il y a des raisons pour lesquelles l'amour se refroidit. Et ceux dont l'amour s'est refroidi, mais ils sont sûrs d'avoir raison. Et ça se comprend. Mais alors, je pose la question, où est passée leur loyauté? Parce que quand on aime, qu'est-ce qui fait qu'on cesse d'être loyal? Même si tu vois ton père, ta mère faire un truc pas possible, c'est ton père, ta mère, il faut quand même être encore loyal. C'est justement dans les moments où ça ne va pas qu'on montre sa loyauté, pas quand ça va bien. Vous voyez, par exemple. Alors, la Bible nous dit que la mort et le séjour des morts tuent. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui meurent, hein, qui sont massacrés, on en voit de plus en plus qui se suicident, mais c'est effarant, c'est effarant. En Suisse, avant, on mettait dans les journaux, un tel s'est jeté par-dessus le pont Bessières à Lausanne, s'est tué comme ça. Et puis, ils ont dû arrêter de dire que les gens se suicidaient, parce que plus ils en parlaient, plus ça inspirait des gens, et plus il y avait des gens qui se suicidaient. Ça fait à peu près 40 ans qu'en Suisse, on ne parle plus de ceux qui se suicident. Et ici, en France, maintenant, on parle, oui, à France Télécom, oui, les paysans se suicident. Beaucoup de paysans se suicident en France. Savez-vous ça? On arrête de le dire parce que ça devient... Plus on en parle, plus il y en a. C'est quelque chose d'incompréhensible. Bien sûr, ils ont leur raison aussi, comme je dis. On ne se suicide pas en disant, tiens, si je me suicide... Non, il y a quelque chose qui arrive, qui fait qu'ils se suicident. La mort, et le séjour des morts, tue d'abord l'amour. Quand l'amour est mort, quand il est refroidi... Eh bien, la loyauté n'existe plus. Une personne loyale, c'est une personne, d'après le dictionnaire, qui obéit aux lois de l'honneur. Alors, on ne naît pas loyal, on le devient à cause de l'amour. Parce qu'on aime, alors on est loyal. Et on a le sens de l'honneur, et on ne va pas trahir parce qu'on a une bonne raison de le faire. Loyal, ça vient d'un mot latin qui signifie « conforme à la loi ». Saviez-vous cela? Loyal, ça signifie « conforme à la loi ». La loi de l'amour interdit absolument la trahison. Il n'y a aucune raison. La loi de l'amour interdit l'abandon. La loi de l'amour interdit la démission. La loi de l'amour interdit que des parents baissent les bras en disant « oh, j'en ai marre de ces gamins » ou alors « oh, j'en ai marre de cette bonne femme, je vais en prendre une autre ». Ou j'en ai marre de ce bonhomme, je vais me marier avec un autre. Ça, c'est pas dans la loi de l'amour. Ils ont leur raison. Mais Jésus ne parle pas de raison, il parle d'amour. De nos jours, les parents ont abandonné, baissé les bras. Et ils ont leur raison. Mais comme je vous dis, Jésus ne parle pas de raison. Il nous parle d'amour. L'amour engage les parents à être conformes à la loi, à être loyaux les uns envers les autres et loyaux envers leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Ben ils voient un divorce sur deux en France, maintenant. Je me rappelle, il y a 20 ans, quand on est arrivé ici au sanctuary, c'était un divorce sur 5. Maintenant, c'est un divorce sur 2. Les injustices, qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Les injustices, mais dans les plus hautes sphères de l'État.
Où est-ce qu'ils voient la justice, la corruption? Dans l'Église officielle. Alors, ils ont leur raison d'être rebelles. Ils ont leur raison d'être rebelles. À leurs parents, aux autorités, ils ont leur raison. Mais Jésus ne parle pas de raison, il parle d'amour. Mais c'est difficile pour un enfant, c'est difficile pour un adolescent d'aimer, de pardonner, d'être compatissant. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils n'ont pas les forces morales assez développées pour ça, ils n'ont pas assez d'expérience, ils ne sont pas assez blindés. Alors quand ça leur arrive en pleine face, eh ben ils se rebellent, c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir manifester quelque chose. C'est compréhensible. Alors ils vont vers le bas plutôt que d'aller vers le haut, parce que de se laisser glisser vers le bas, c'est beaucoup plus facile que de dire « bon, c'est un sale coup, on m'a fait une sale vacherie, mais je vais prendre le dessus, je vais pardonner, je vais essayer de construire. » Non, c'est plus facile de baisser les bras, c'est normal. Et on va voir de plus en plus d'enfants qui vont se mettre à zigouiller leurs parents. Vous voulez pas me croire? Regardez le jour aujourd'hui, là, on est le 16, c'est ça? Le 16 janvier, il est 11h06. Rappelez-vous de cette date et regardez les journaux. Vous allez voir dans les temps qui viennent. Vous allez voir de plus en plus des enfants qui massacrent leurs parents. De plus en plus. Vous pensez que ça va être que je parle de cas isolés? Non, je vous parle pas de cas isolés, ça va être en masse. Croyez pas ça. Si vous ne me croyez pas, alors vous ne croyez pas à la Bible. Parce que Jésus, lui, dit que les enfants arriveront à se dresser contre leurs parents et les feront mourir. Matthieu 10, 21. Vous voyez le doux Jésus. Hein? On nous donne toujours une idée de Jésus. Mais il a dit des choses terribles, et en particulier au sujet de notre génération. On est une génération en péril. Ça, ce sont des prophéties. Les prophéties qui se trouvent dans la Bible et qui concernent les siècles qui nous ont précédés, elles se sont toutes accomplies. Toutes. Il n'y a aucune raison pour que les prophéties qui parlent de notre époque ne s'accomplissent pas. Aucune raison. Alors, qui de nos jours aime se conformer à la loi? Maintenant, le grand truc, on dit, la loi, elle est faite pour être contournée. Non, vous avez jamais entendu ça? Qui de nos jours aime obéir aux lois de l'honneur? Ah, alors oui, il y en a certains qui vont jusqu'à tuer leur sœur ou leur fille parce qu'ils disent, elle a déshonoré notre famille. Vous lisez ça dans les journaux. Je ne vous parle pas de cette sorte de perversion du sentiment de l'honneur. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas du sens perverti du sens de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, selon Jésus, selon l'esprit qui vit dans chaque chrétien, la loi de l'honneur, c'est la loi de l'amour, l'amour qui pardonne. L'amour qui pardonne, c'est hautement honorable. C'est ça la loi de l'honneur. Pas d'aller tuer sa fille parce qu'elle a été faire la folle dans un coin et déshonorer la famille. Vous comprenez? C'est rigolo d'ailleurs, on tue facilement les filles, on ne tue pas beaucoup les garçons dans les familles comme ça. C'est toujours les filles qui prennent. Et la loi de l'honneur qui tue, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est fait au nom de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas tout mélanger. Ou alors, ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que nous. La loyauté, elle ne démissionne pas. Même face à des ados qui font honte à leur famille, la loyauté ne démissionne pas. Je suis en train de lire, enfin de finir de lire, parce que c'est tellement pénible à lire, un livre de Jean-Marie Perrier que je vous recommande. Je ne me rappelle plus le titre, là, tout d'un coup, ça m'échappe. C'est le nombre de suicides qui existent dans le monde, et en particulier en France, parce que des jeunes gens ou des jeunes filles avouent à leurs parents leur homosexualité, alors les parents ne les comprennent pas, se fâchent et les fichent à la porte. Des gamins de 12, 13 ans, à la rue. Ils les fichent à la rue à cause de ça. C'est un livre de Jean-Marie Perrier, je ne me rappelle plus le titre. Chérie, tu t'en rappelles le titre, non? Je ne me rappelle plus. Mais vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a Jean-Marie Perrier, un bouquin qui parle de... voilà. La loyauté, elle marche de pair avec la fiabilité. Parents, es-tu fiable? Fils, fille, es-tu fiable? Fiable, ça veut dire fonctionner sans défaillance. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi, je sais que ton amitié, ton amour ne va pas défaillir, tu vas continuer à m'aimer. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi, je vais continuer à t'aimer. C'est ça, être fiable. Le mot fiable, il contient une syllabe, la syllabe phi. Phi, c'est du grec. On trouve le mot, on trouve cette syllabe phi dans fiancé. Phi. On trouve dans fidèle. On trouve dans se fier. Fier. Se fier à quelqu'un. Et on le trouve aussi dans fidéisme. Ah, vous connaissez ce mot, fidéisme. Phi, ces syllabes phi, ça a donné en français le mot foi, la foi. Le fidéisme, c'est la doctrine selon laquelle la foi ne dépend pas de la raison, mais du cœur, de l'amour. La foi, elle dépend de l'amour. Je t'aime, c'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Oh, je sais que tu n'es pas parfait. Je sais que tu vas faire plein de bêtises, mais j'ai confiance en toi. Si tu aimes tes enfants, tu as confiance en eux. Voilà. Si tes enfants t'aiment, ils ont confiance en toi. Est-ce que vous aimez vos parents, les enfants ? Vous faites confiance à vos parents ? Ça ne veut pas dire que vos parents sont parfaits. On sait bien qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais vous ne leur retirerez jamais votre loyauté, jamais votre amour. Jamais. Question d'honneur. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Pour eux, tu dois être fiable. Comment sait-on qu'une personne est fiable ? Ben, chez un gamin, chez un enfant, c'est instinctif. La nature, Dieu a permis ça, c'est instinctif. Un enfant, il croit dans la fiabilité de ses parents. Il croit que ses parents sont parfaits. Mon papa, c'est le meilleur. Ma maman, c'est la plus gentille. Celle qui fait le mieux les pâtes. Voilà, les enfants, ils trouvent leurs parents extraordinaires. Et puis, il arrive à un âge, on appelle ça l'adolescence. C'est le moment le plus affreux. S'il y a une chose que je ne voudrais pas revivre, c'est ça. Mon Dieu, quelle horreur. L'adolescence. Eh bien, à l'adolescence, le jeune, il doit décider d'être loyal envers ses parents. Pourquoi il doit décider ? Parce que l'adolescent commence à avoir les yeux qui s'ouvrent, puis il se rend compte que ses parents, c'est pas ça du tout. Ils sont pas top, top, top tout le temps. Il voit qu'ils ne sont pas aussi fiables qu'il pensait qu'ils étaient. Alors, il constate des défauts chez ses parents, il constate des manques, et il les voit commettre des erreurs. C'est pas possible. Et alors, ils commettent des erreurs. Et alors. C'est justement là que l'adolescent fait preuve de loyauté. C'est justement là qu'on montre une force de caractère, qu'on montre la valeur qu'on a à l'intérieur et qu'on est loyal envers justement des parents qui font des bêtises ou qui sont franchement bêtes. Alors, lequel d'entre vous, parents, enfants, tontons, tatas, grand-père, grand-mère, etc. Lequel d'entre vous désire ardemment avoir la réputation d'être une personne qui n'est pas loyale ? Levez la main. Vous avez tous le désir d'avoir la réputation d'être loyal. Ben ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Uniquement. Vos parents peuvent commettre des erreurs, mais ce sont vos parents. Rien ne vous autorise à ne pas être loyaux envers eux. Sauf s'ils commettent sur vous des choses abominables telles que l'inceste, par exemple. Là, vous devez aller en parler à un adulte en qui vous avez confiance. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, il faut aller à la gendarmerie directe. Ça fait un grand silence, ça. C'est vrai. Pas être loyal à tout prix. Là, il ne faut pas dépasser les limites. Il y a des limites que les parents ne doivent pas dépasser. Et il y a de plus en plus de gens comme ça. De nos jours, on voit beaucoup de chiffres molles. Je ne sais pas si ça se dit en France, les chiffres molles. Oui, ça se dit. Les chiffres molles qui se servent de tous les prétextes pour se permettre d'être insolents. Ouais, mais comme il y avait ça, alors moi, je ne respecte pas. Non, ça, c'est des chiffres, ouais, c'est des gens sans caractère, c'est des gens qui n'arrivent pas à prendre le dessus, c'est des gens qui glissent vers le bas, qui n'ont aucune force morale pour être en haut. S'ils étaient dans un film, ça serait eux qui auraient le mauvais rôle. On dira, ah, là, c'est le pourri. Il avait une gueule de pourri, d'ailleurs. Parce qu'à force d'être pourri, on commence à avoir une tronche de pourri. Hein. C'est vrai. Presque. Qu'est-ce que vous voulez être ? Si vous m'écoutez et que vous savez que dans votre cœur, vous êtes dans la liste de Paul, là, que je vous ai lu tout à l'heure dans Romains 1, 28 à 32, c'est-à-dire irreligieux, comment dire, ne craignant pas Dieu, orgueilleux, fanfaron, irrespectueux, etc., etc. Mais repentez-vous! Sinon, bientôt, vous allez avoir la réputation d'être, de ne pas être loyal. Repentez-vous, suppliez Dieu qu'il ranime en vous la flamme de l'amour pour vos parents, pour vos enfants, pour ceci, pour cela, pour votre pays, afin que vous ne suiviez pas la voie des malfaisants, des orgueilleux, des fanfarons, des diffamateurs, des insolents, des rebelles à leurs parents. Leur voie, ils vont en enfer, ces gens-là. Mais ce n'est pas Dieu qui les envoie en enfer, c'est eux qui y vont tout droit. Ils marchent dans la bonne direction pour aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui va les envoyer, c'est eux qui y vont. Parce qu'ils n'aiment pas la sainteté, ils n'aiment pas la pureté, ils n'aiment pas la loyauté, ils n'aiment pas les valeurs morales, ils n'aiment pas. Ça les répugne, c'est quelque chose, c'est contre nature pour eux, ils détestent ça, alors ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de Dieu. Là, je veux surtout me parler de ça, parce que. Alors là, non, c'est bondieuserie, ça me dégoûte. Bon, ben voilà. Dieu ne va pas les obliger à aller au paradis, hein, parce que là-bas, il n'y a que des bondieuseries. Il les laisse aller là où ils veulent, en enfer. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous, hein? Chacun pour soi, là. Alors, souvenez-vous. La Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans ce livre, ça doit nous servir pour prendre des modèles, prendre des exemples. Je vais vous parler ce matin, juste très rapidement, d'un roi qui s'appelait Saül. Saül, il était mort de trouille parce qu'il y avait les Philistins qui attaquaient...
Déjà.
Israël. C'est une vieille histoire, hein. Et il y avait parmi eux un géant qui s'appelait Goliath. On ne l'a pas chanté, Goliath. On va le chanter tout à l'heure. Hein? Allez, on chantera David et Goliath tout à l'heure. Goliath. Et puis voilà que David, qui gardait les brebis dans les champs, un gamin qui doit avoir quand même 16-17 ans, je pense, un jeune homme, et il arrive là pour aller voir ses frères qui sont à la guerre, et puis il voit ce géant, il dit, mais c'est pas possible, il est en train de nous insulter, celui-là, je vais lui couper la tête. Et puis Saül, le roi, apprend qu'il y a ce gamin qui est tout excité, qui veut aller tuer le géant. Il dit, non, faut pas bouger, après ils vont nous... Non, faut pas, et tout. Et David, il parle tellement bien, il est tellement courageux, il explique qu'il a déjà massacré des lions, des ours, pour lui, c'est pas un problème. Donc finalement, le roi lui permet d'y aller, et le roi voit ce petit gamin, il devait être balèze quand même, le David. Hein. Il le voit tuer Goliath, par sa propre foi, sa détermination et son courage. Alors Saül est tout content. Ah, il est tout content, alors il dit, ah, ben écoute, viens chez moi, viens au palais, mais tu sais quoi, cette harpe pourrie avec laquelle tu joues, tiens, je t'en donne une en or, ça sera bien mieux, gloum, gloum, gloum. David, il commence à jouer avec les meilleurs instruments, et puis il est là, il mange à la table du roi, puis c'est bien, il devait trouver ça super, ça le changeait des brebis des champs, hein, ça le changeait beaucoup. Mais voilà, Saül qui aimait bien David, il avait un problème. Quel problème? La Bible nous dit qu'un mauvais esprit s'emparait de lui de temps en temps. Et l'amitié qu'il avait pour David, dans ces moments-là, elle se transformait en haine. La jalousie, la haine. À cause de ce mauvais esprit qui s'emparait de temps en temps de Saül, voilà que Saül avait de la rage contre David. Et il a même essayé de le tuer plusieurs fois. Vous lirez ça dans le livre de... Le 1 Samuel 18, d'ailleurs, c'est curieux. Un mauvais esprit, nous dit la Bible. Tout à l'heure, au début de ma prédication, je vous parlais des mauvais esprits, des morts qui circulent librement sur la terre depuis la fin du 20e siècle. Ce sont des esprits qui s'emparent des gens. Combien de fois vous avez vu à la télévision des braves dames qui disent « Oh, mais on n'aurait jamais pensé que cet homme allait pouvoir tuer sa femme, ses enfants, puis se suicider après. Il était tellement gentil. » Combien de fois vous avez entendu ça? Oh, mais c'est quand même incroyable, il a tué ses amis, mais il était tellement gentil. Oui, ce sont des gens gentils, ça, c'est un monsieur gentil. Mais de temps en temps, un mauvais esprit le saisissait comme ça, et il devenait une horreur. Eh bien, les gens aussi maintenant, les gens, vous avez combien de personnes qui disent, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein? Après, ils sont là au tribunal, puis... Je sais pas, alors on dit, ben, il faut les enfermer dans un hôpital psychiatrique parce qu'ils ont un problème psychiatrique. C'est des démons. Ils ont été saisis par des esprits mauvais. Ces esprits qui s'emparent des gens, les poussent à la déloyauté, à la trahison, à l'abandon de leur devoir et même jusqu'au meurtre. Pourquoi ces mauvais esprits s'emparaient-ils de Saül? La Bible nous dit, parce que Saül, il avait pris la grosse tête, il voulait faire comme il voulait. Il voulait servir Dieu même, mais comme il voulait. Pas comme Dieu voulait, mais comme lui voulait. Oh ben Dieu s'en arrangera. Vous voyez, je veux faire comme je veux. Et parce qu'il voulait faire comme il voulait, eh bien vous lirez ça dans 1 Samuel 13, eh bien l'esprit de Dieu s'est retiré. Quand vous ne voulez plus de Dieu, quand vous voulez faire comme vous voulez, ben Dieu s'en va. Il est poli. Il va pas s'imposer. Quand quelqu'un vous aime, si vous ne l'aimez pas, la personne qui vous aime, ben elle se retire tranquillement, elle va pleurer dans son coin, mais elle ne va pas s'imposer, s'accrocher. Quand on aime, on ne s'incruste pas. Quand on voit que l'amour n'est pas réciproque, eh bien Dieu s'est retiré. Et le peuple de la terre aujourd'hui, il est comme Saül. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu des écoles. Ils ont rejeté Dieu. Ils avaient des raisons de rejeter Dieu. Les églises étaient devenues tellement pourries et tellement, c'était devenu tellement méchant. Il y avait une telle autorité négative qu'un jour ils ont dit, on en a marre de ce truc-là. Alors ils ont rejeté Dieu et ils ont eu tort. Ils auraient dû rejeter la religion, mais pas Dieu. Or, ils ont rejeté Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu s'est retiré exactement comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. On lit ça dans 1 Samuel 16, 14. Il est écrit, le souffle du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, s'éloigna de Saül, tandis qu'un mauvais souffle venant de Dieu le remplissait. Un mauvais souffle, un mauvais esprit venant de Dieu. Ben oui, parce que la nature a horreur du vide. Si le bon esprit de Dieu s'en va, c'est un mauvais esprit qui vient. C'est comme ça. De nos jours, des mauvais esprits, des esprits des morts, sont lâchés par Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a rejeté Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. Et ces esprits mauvais ont reçu un pouvoir, celui de faire périr les gens, de faire périr leurs espoirs, de faire périr leurs rêves. Maintenant, les gens ne rêvent plus, les gens ils veulent survivre. Il y a des gens qui vivent avec 500 euros par mois en France. Comment ils font? Leurs rêves sont brisés, ces démons ont tué tout ça. Qui a donné ce pouvoir à ces mauvais esprits? Dieu! Oh, mais il n'est pas gentil alors Dieu. Si, bien sûr qu'il est gentil. Mais vous l'avez rejeté. Les gens l'ont rejeté. Il n'est pas tenu de toujours bénir et combler ceux qui l'ont rejeté, pas du tout. Alors ce sont des mauvais esprits venant de Dieu, exactement comme ils sont venus sur Saül. Alors je vous demande, mes amis, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur Internet, vous qui êtes ici à la chapelle, vous qui regardez la vidéo, la télé, de quel esprit voulez-vous être animé? De quel esprit voulez-vous être rempli? De l'Esprit de Dieu ou des mauvais esprits des morts qui parcourent la terre en ce moment, poussant les gens au suicide, au meurtre, à la trahison, à la déloyauté? Quelle sorte de personne voulez-vous être? Quelle sorte de personne voulez-vous devenir? Dieu te dit ce matin, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Choisir la vie, ça veut dire choisir Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Choisis la vie, choisis de marcher avec Jésus. Choisis Jésus pour maître. Voilà, Jésus, ça va devenir mon maître maintenant. Mon maître à penser, mon maître à agir. Mon maître à parler, mon maître. C'est lui mon maître maintenant. Je veux Jésus pour maître parce que Jésus, il est le roi de la paix. Jésus, il est le roi de la bonté. Jésus, il est le roi de la gentillesse. Jésus, il est le roi du pardon. Je veux ce roi-là dans ma vie, je veux ce maître-là. Jésus, il est le roi de la réconciliation. Jésus, il est le roi de la loyauté. Je veux ce maître-là, je ne veux pas l'autre. Que Dieu vous bénisse. Prions. Baissez vos fronts et prions. Seigneur mon Dieu, je te prie que cette parole que j'ai annoncée ce matin aille jusqu'au plus profond du cœur de chacun et de chacune Et que chacun et chacune fasse vraiment un bilan intérieur en se disant, mais je veux servir qui? Je veux être au service de qui? Du bien ou du mal? Je veux faire quoi dans ma vie? Je veux devenir quoi dans ma vie? Est-ce que je veux me couler dans le moule de tout le monde? Ou est-ce que je veux être différent et marcher dans le chemin de la vie, de la droiture, de la loyauté, de la bonté, de la gentillesse, du courage? Seigneur Jésus, je te demande ceux qui voudraient marcher avec toi fidèlement, je te demande qu'ils mettent leurs mains sur leur cœur pendant que je suis en train de te prier. Mettez votre main sur votre cœur si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, si vous voulez choisir de changer de maître, d'appartenir au bien et de marcher la tête haute, fièrement, comme quelqu'un qui sait à qui il appartient, au Dieu créateur qui est bon, qui est juste aussi, mais qui est bon. Seigneur, bénis ces gens qui mettent leurs mains sur leur cœur, bénis-les, encourage-les, donne-leur, Seigneur, des signes d'encouragement et permet qu'ils puissent réussir dans ce qu'ils vont entreprendre. Permet que leurs péchés soient effacés maintenant et qu'ils puissent marcher avec toi en nouveauté de vie et qu'ils puissent réaliser combien tu es grand et combien tu es un protecteur pour nous. Merci Seigneur de bénir tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui écoutent ce message. Encourage-les Seigneur Jésus. Il y en a qui sont terriblement découragés. Encourage-les, Seigneur. Visite-les par ton esprit. Fais que quelque chose leur arrive cette semaine qui puisse les réjouir, mon Dieu. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.